France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le pellet ou le granulé de bois émet 5 fois moins de CO2 que le fioul. Mais surtout, c'est une énergie pas chère, économique, hein, puisque 2 fois moins chère que l'électricité.
On n'est pas opposé au pellet en soi, mais ça qu'apparaît 13% de la ressource totale d'un département pour rejeter du carbone dans l'atmosphère, c'est une catastrophe.
On nous parle beaucoup de réchauffement climatique, mais lutter en se disant voilà, on va utiliser de l'énergie bois, c'est-à-dire continuer à mettre encore plus de carbone dans l'atmosphère, tout en détruisant les forêts et en ne respectant pas le bon sens le plus élémentaire en matière d'usage du bois, c'est un vrai problème pour nous.
La guerre en Iran, en entraînant une flambée des prix du pétrole et du gaz, vient nous rappeler l'urgence de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Parmi les solutions, le développement des renouvelables pour produire de l'électricité, des biocarburants et du chauffage. En France, 2 millions de foyers se chauffent déjà au pellet, ou en bon français, au granulé de bois. Ce combustible pour les poêles et les chaudières est fabriqué à partir de sciures, de copeaux et autres résidus de l'industrie du bois. Il doit son succès à son prix avantageux et à sa réputation d'énergie respectueuse de l'environnement. En 2025, les ventes de poêles à granulés de bois ont progressé de 27%. Et pour suivre la cadence, de nouveaux projets d'usines à pellets voient le jour. Cela permettra, assure les industriels, de dynamiser les territoires en créant de l'activité et de l'emploi local. Mais leurs ambitions se voient freinées, d'un côté par la baisse des aides publiques, de l'autre par les voix critiques de plus en plus nombreuses à l'encontre des méga-usines. Jusqu'où doit aller cette industrialisation de la production? Ces nouveaux sites sont-ils réellement adaptés à leur environnement? Et jusqu'à quand la ressource forestière sera-t-elle suffisante? Granulé de bois, une énergie verte controversée, c'est un reportage signé Olivier Denray. Bonjour Olivier.
Bonjour Aurélie.
Pour y voir clair sur les atouts et les défauts de cette filière, eh bien vous avez voulu donner la parole aux différents protagonistes, acteurs ou témoins du développement des granulés de bois.
Ils sont élus locaux, militants associatifs, professionnels de la forêt ou tout simplement chefs d'entreprise. Ils vivent à Guéret dans la Creuse, à Saint-Lin-les-Bains dans le Jura, mais aussi à Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, dans le massif du Morvan ou à proximité de Siry, dans le département du Doubs. Pendant une bonne semaine, j'ai donc sillonné ces territoires où la ressource forestière est à la fois convoité par les uns et protégé par les autres, avec partout la sensation que le sujet divise et que les moments d'échange pour des débats contradictoires et apaisés ne sont pas ou ne sont plus d'actualité. Les dernières municipales seront peut-être par endroit des juges de paix, à Saint-Lin-les-Bains notamment, où l'équipe sortante a finalement été battue dès le premier tour par des opposants à un projet de grande usine de la commune. Des recours juridiques ont d'ailleurs été déposés en Creuse et dans le Jura, comme s'il fallait que la justice trace les lignes à ne pas franchir de part et d'autre. Pas sûr toutefois que cela suffise à lever toutes les incompréhensions.
Avant d'écouter votre reportage, Olivier, je salue notre invité. Bonjour Arnaud Sergent.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste de la forêt et de la filière bois au sein de l'unité de recherche ETIS à l'INRAE Bordeaux. INRAE pour Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vous êtes également co-directeur d'un programme national de recherche sur la résilience des forêts qui s'intitule Forest. Vous réagirez donc tout à l'heure au reportage. Il nous emmène d'abord dans le Doubs, dans le village d'Arc-sous-Sicon, et nous allons tout de suite entendre Bernard Pourcelot. C'est l'un des tout premiers Français à s'être lancé avec son frère dans la fabrication de granulés de bois. Et l'usine qu'il a dirigée de 1983 à 1993 fonctionne toujours.
Mon frère, qui exploitait un restaurant à l'époque à Arc-sous-Sicon, a rencontré tout à fait par hasard le représentant des scieurs de Franche-Comté qui lui a posé une poignée de granulés sur la table du restaurant en lui disant « Voici l'avenir ». L'idée était d'utiliser en priorité la sciure de bois. Parce que globalement, La sciure trouvait un débouché auprès des panotiers, les fabricants de panneaux de particules. Donc les grosses scieries n'avaient pas de problème de débouché, mais il y avait une myriade de scieries de moyenne importance qui ne savaient pas franchement quoi faire de leurs déchets. Donc ça pouvait constituer un débouché pour ces déchets, mais surtout, donc on était après le premier choc pétrolier de 1973, et toutes les idées possibles étaient bonnes à prendre pour favoriser donc l'indépendance au pétrole.
Dès le départ, l'entreprise dirigée par Bernard Pourcelot a joué le jeu de la proximité. De la sciure récoltée sur place et des granulés de bois vendus à l'échelle du territoire et des départements limitrophes, c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Avec son compagnon, Sophie Tatu a repris les rênes de l'usine qui tourne 5 jours sur 7, jour et nuit. Si certaines pièces sont encore d'origine, l'outil de travail a été profondément rénové.
Quand on a racheté le site en 2015, il était d'origine. Bon, faut pas se cacher qu'on avait pas mal de problèmes de voisinage. Bon, on les a bien résolus avec la totale rénovation de l'usine en 2022. On a pu résoudre les problèmes de bruit, on a changé les matériels, on va dire, qui grinçaient. Et puis maintenant, on n'a plus du tout de souci avec le voisinage. On a surtout résolu les problèmes de poussière. À l'époque, le tas de sciure était dehors. Il n'y avait pas de bâtiment pour abriter la matière première. Et en fait, forcément, comme en plus Arc-Soucicon est très vanté, à chaque fois qu'il y avait de l'air, eh ben, on envoyait de la poussière chez les voisins, quoi. C'était réellement un problème. Maintenant que tout est dans un bâtiment, on n'a plus du tout ce genre de problème. Le combustible à son bâtiment, la matière première pour fabriquer le pellet à son bâtiment. Alors en fait, aujourd'hui, la seule chose que vous voyez qui sort de l'usine, c'est la cheminée hein, principale, où là, c'est vraiment toute la vapeur d'eau qui est due en fait à l'extrusion de l'eau qui est présente naturellement dans le bois, puisque quand on reçoit la matière, elle est humide à peu près à 50% en moyenne sur l'année. Et en fait, on la déshydrate. Et donc, ce qu'on voit sortir de la cheminée, ben, en fait, c'est l'eau qui était présente naturellement dans le bois. Alors nous, on fabrique le pellet uniquement avec de la sciure qui sort directement de scierie et éventuellement des copeaux de bois qui sortent de menuiserie. Mais on n'a pas du tout de bois issu de coupes de bois, en fait.
Vous produisez à peu près 15 000 tonnes de granulés par an. Vous pourriez faire plus compte tenu du marché, ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez atteint une espèce de seuil critique ?
Bah, disons qu'en fait, on pourrait monter à peu près à 23 000 tonnes par an en mettant l'usine en route le samedi et le dimanche. Mais c'est vrai qu'il faut trouver aussi la matière et ça, c'est pas évident.
Quel regard vous avez aujourd'hui sur les gros industriels qui cherchent à s'implanter, notamment dans le secteur en Franche-Comté ? On a deux grosses usines, une à Souvent qui va produire quasiment 100 000 tonnes de granulés par an, une autre potentiellement à Saint-Lin-les-Bains qui pourrait produire 110 000 tonnes par an. Est-ce que ça, c'est un danger ? C'est quelque chose qui vous inquiète ?
Eh bien, en fait, effectivement, on va dire que nous, on a de la chance d'être situés dans le Haut-Doubs et puis d'être entourés de scieries. Et on espère pouvoir avoir le privilège d'utiliser la matière première qui est vraiment fabriquée, on va dire, à moins de 40 km de l'usine. Donc on a un circuit vraiment très court. C'est vrai qu'après, toutes ces méga-usines, quand on voit que nous, on n'arrive pas à travailler le week-end par manque aujourd'hui déjà de matière première issue de la transformation du bois, on se dit, ben, où vont aller chercher leur matière première, ces grosses usines ? Et puis, est-ce qu'ils vont déstabiliser totalement nos approvisionnements, nos propres approvisionnements, quoi ? Elles vont tellement produire un tonnage important qu'on se dit qu'il faut une quantité quand même phénoménale de bois en face tous les ans pour les faire fonctionner, quoi.
Installé à Malakoff, au sud de Paris, c'est là que se trouve le siège social de sa société baptisée EO2 et cotée en bourse, Guillaume Poisat a depuis quelques années jeté son dévolu sur la forêt jurassienne. Cet industriel, qui possède déjà une usine en Auvergne, a cherché des terrains constructibles dans la région. Soutenu par l'État, Guillaume Poisat a finalement choisi de s'installer sur la commune de Saint-Lin-les-Bains avec l'espoir de produire 110 000 tonnes de granulés de bois par an.
Nos logiques d'implantation, elles reposent essentiellement sur des logiques d'approvisionnement. Et en fait, ce plateau du Jura, c'est le seul grand massif forestier où il n'y a jamais eu de consommateur de ce qu'on appelle les rondins de trituration, c'est les déchets de la sylviculture. C'est-à-dire que quand vous plantez des arbres, tous les 20 ans, vous coupez quelques, les plus petits, les plus faibles, pour que les grands se développent. Et ça, c'est des bois qui sont trop petits pour être sciés. C'est ce qu'on appelle le rondin de trituration ou le rondin d'industrie, enfin bref, qui sont broyés et historiquement vendus pour l'industrie du papier. Et puis après, les réserves foncières pour construire les usines, il n'y en a pas tant que ça dans la réalité. Donc on a croisé les flux de troncs d'arbres existants avec les possibilités de réserves foncières. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Salin. C'est en croisant ces deux informations, en fait.
Sauf qu'à Salin, vous avez rencontré un certain nombre de difficultés depuis que vous avez obtenu notamment le feu vert des autorités préfectorales là-dessus.
Oui.
Dans un premier temps, la communauté de communes vous soutenait. Finalement, elle a voté contre. Il y a des oppositions. Bref, c'est assez compliqué.
Il y avait une opposition qui était relativement marginale, portée par des personnes que je comprends, hein, qui estimaient que la présence d'une usine de granulés proche de leur habitation pouvait dévaluer la valeur de leur habitation ou nuire à leur confort. Alors, sachant qu'une unité de granulation, c'est une usine qui rentre du bois, qui sort du bois sec, qui est de la vapeur d'eau. On utilise des matériaux locaux qui sont renouvelables. Vous n'avez pas de pollution, c'est des cycles qui sont relativement courts en termes de collecte et de distribution. En fait, si vous définissiez l'usine parfaite, vous cochez beaucoup de choses, de choses vertueuses. Donc, après, ça reste une industrie. Même si elle n'est pas polluante, ça reste une industrie et ça inquiète des riverains de proximité. Donc voilà, donc ça serait la première opposition. L'opposition au niveau de la communauté de communes, elle est difficilement compréhensible si on s'en tient au factuel, parce que valoriser avec une industrie pas polluante, valoriser des ressources locales en circuit plutôt court, alors que ce sont des ressources qui quittent la région, enfin, c'est difficilement compréhensible de s'opposer. L'opposition au conseil communautaire, il est apparu par des personnes qui, deux semaines avant, étaient pour. Hein.
Quels arguments pour convaincre aujourd'hui de la pertinence de votre projet?
L'argument de base qui nous a été contré, c'était la ressource bois, parce qu'elle est méconnue. Grosso modo, ce massif du Jura, tous les ans, il y a 1 million de tonnes de bois de trituration qui quittent les plateaux pour aller ailleurs ou à l'étranger ou dans d'autres régions françaises. Et il y a un nouveau phénomène qui est pour le coup dû au réchauffement climatique, c'est que la mortalité des bois est en train d'augmenter en France.
Scolite, entre autres, dans le Jura, c'est ça qui endommage beaucoup les résineux.
Il y a le scolite, mais il n'y a pas que le scolite. En fait, il y a plein de choses qui expliquent. Alors, c'est la mortalité de certaines essences. Ça ne veut pas dire que les forêts ne sont plus là, mais ça veut dire qu'elles sont en train d'évoluer, elles se vont transformer. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura beaucoup, beaucoup de bois non sciables à commercialiser pendant plusieurs dizaines d'années qui vont dire le temps que cette forêt fasse sa mue. Et ce qui fait que l'interrogation originelle des exploitants forestiers s'est encore renforcée par le besoin de commercialiser des bois qui vont être de plus en plus impropres au sillage. Bon, ça, quand on a ça en tête, je ne crois pas avoir besoin d'avoir à faire beaucoup d'efforts pour convaincre, parce que les données rationnelles sont là, et si j'ai une opposition, en tout cas sur ce projet-là, dans le Jura, elles ne sont pas du domaine du rationnel. C'est qu'il y a autre chose derrière, et s'il y a autre chose derrière, ce n'est pas en rationalisant que j'arriverai à convaincre.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard Michaud. J'habite à Salin, mais aussi sur le canton d'à côté, et je suis membre d'un collectif citoyen, Citoyens Loulisans. On travaille à la transition écologique, et on a été amené à se questionner sur le projet des O2 à Salin. Ce qui se passe effectivement ces 3-4 dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de chablis, beaucoup d'épicéas qui ont séché, scolités. Par ailleurs, un peu dans le bas, il y a des frênes aussi qui subissent la carrelarose, etc. Donc il y a aujourd'hui une ressource de chablis, de produits accidentels qui est importante. Mais quand on y regarde de plus près, toute cette ressource-là, aujourd'hui, elle est consommée, elle trouve preneur. À l'heure qu'il est, tous les mètres cubes de bois scolité bord de route sont commercialisés. Donc M. Poisat ne sera pas le sauveur de la forêt jurassienne. Pour l'accueillir dans un avenir proche, il faudrait couper plus, donc augmenter les prélèvements en forêt, ou bien capter des ressources qui sont utilisées par d'autres utilisateurs. Alors les autres utilisateurs, par exemple les gens qui font de la laine de bois, du panneau, etc., ils sont déjà sur le marché et ils pratiquent aujourd'hui des prix qui a priori sont supérieurs au prix que pourrait y mettre un granulateur.
Donc si je vous comprends bien, la ressource aujourd'hui forestière dans le Jura, elle n'est pas suffisante pour alimenter l'usine de Guillaume Poisat.
Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment par la cellule biomasse de Fibois, donc l'organisme régional interprofessionnel du bois, qui dit que la ressource ne sera pas suffisante pour approvisionner l'entreprise EO2 à Salins, qui s'installe sur le même secteur géographique que JRS, qui vient d'acheter son site à Souvent, donc à 30 km d'ici.
Ça, c'est une autre entreprise qui veut aussi faire du granulé de bois.
C'est une autre entreprise qui produit des pellets. Ils ont 5 ou 6 entreprises en Allemagne. Ils en ont une en Bourgogne. Et ils viennent d'acquérir l'ex-entreprise Danzer à Souvent, donc à 30 km d'ici, pour produire du pellet dès cet automne, dès septembre 2026.
Je m'appelle Thomas, je suis garde forestier, je suis secrétaire départemental du Snupfen solidaire pour le Jura, le syndicat majoritaire à l'ONF. Au Snupfen, on défend une gestion forestière durable en accord avec ce que la forêt peut produire. On défend aussi un écosystème vivant et une défense contre les monocultures. Et ce type d'usine qui a des besoins démesurés en bois n'est pas du tout en accord avec une gestion forestière durable. D'après les documents posés à la préfecture, l'usine aurait besoin de 220 000 m3 de bois par an, ce qui représente presque 13% de la récolte actuelle. Donc ça fait un accaparement de la ressource qui est catastrophique. On n'est pas opposé au Snupfen, au pellet en soi, mais s'accaparer 13% de la ressource totale d'un département pour rejeter du carbone dans l'atmosphère, c'est une catastrophe. Alors aujourd'hui, la forêt jurassienne, d'après les chiffres de l'inventaire forestier national, elle a disponible sur pied 52 millions de mètres cubes. Et il est estimé que la croissance des arbres, donc la production forestière annuelle, est d'1 500 000 mètres cubes par an. Donc ce qui correspond à la pousse des arbres. Et par ailleurs, en raison des mortalités massives, on prélève depuis quelques années 1 600 000 m3 par an. C'est-à-dire qu'on prélève plus que ce que ça produit, donc en gros la quantité de bois sur pied diminue. Ce qui va totalement à l'encontre d'une gestion forestière durable.
Les opposants à ce projet d'usine mettent aussi en avant des risques pour la qualité de vie. Leur collectif, créé en 2022, juste après la publication d'un article dans la presse locale, s'est rapidement transformé en association. Pays de Salins Environnement est aujourd'hui coprésidé par Jérôme Birot et Sandrine Chauvin.
Donc Salins est une ville traversante. Vous êtes obligé de traverser Salins quand vous arrivez du massif, du Jura, où les bois seront collectés. Et vous êtes obligé de retraverser toute la vallée. On a déjà des grumiers qui passent aujourd'hui. L'entreprise et les porteurs de projet nous annonçaient une petite cinquantaine de camions. On va doubler la capacité de camions parce qu'il y a ceux qui amènent le bois, il y a ceux qui vont faire tourner l'usine, la maintenance, et il y a tous ceux qui vont repartir avec le granulé. On a procédé dans le cadre de l'association à un comptage sur 24 heures des camions qui circulent actuellement sur Salins. On était à 400 camions. On a des pics importants en journée, en soirée, et à partir de 6 heures du matin, ça repart. Donc on n'imagine pas en tout cas 100 camions de plus dans cette rue principale. Salins et son territoire, c'est quand même une ville de santé. On a un établissement thermal, on a un centre de réadaptation, une maison d'accueil spécialisée. Aux portes de Salins, on a un centre cardiaque. L'augmentation du trafic, l'augmentation du bruit, l'augmentation de la pollution et les poussières et le bruit générés par l'usine concernent les infrastructures qui sont aujourd'hui implantées sur le territoire et qui n'iront pas avec ce projet-là.
Moi, je pense qu'il y a d'autres impacts qui sont peu évoqués. C'est au niveau économique, l'entreprise EO2 nous vend la réhabilitation de la vitalité économique de Salins. Or, c'est surtout son projet, c'est les 8 hectares restants de la zone d'activité qui sont sous son emprise d'un seul coup, c'est-à-dire plus aucune place pour autre chose. Et puis surtout, des promesses d'emploi qui sont complètement fantaisistes. C'est-à-dire qu'entre le moment où de la première réunion publique et aujourd'hui, on a eu un yo-yo entre les chiffres. C'était 20 emplois, 25, 35, 50, 45. Et au final, maintenant, on nous parle de 40 emplois, sachant que son entreprise, qui est vers Clermont-Ferrand, pour une taille similaire, emploie une 20aine de salariés maximum.
Et pour revenir sur le projet sur le territoire, je pense que la municipalité en place a vu ce projet se déposer par l'entreprise comme étant l'unique solution pour redonner une revitalisation à Salins.
Une aubaine.
C'est ça, une aubaine. On allait créer 40 emplois, selon M. Poisat. Et ils ne se sont pas attachés à voir l'existant. Sur le massif du Jura, on a de nombreuses entreprises. On a des scieurs, on a des entreprises de granulation. Il aurait été prudent de se renseigner sur ce qui se fait aujourd'hui et de voir si l'entreprise de Monsieur Poisat avait la place. Je pense vraiment, et vous avez donné le terme, ils ont vu ça comme une aubaine pour sauver Salins. Alors qu'en fait, ça va faire fuir la majorité des populations.
Les critiques et les inquiétudes sont également partagées sur place par des dizaines d'entreprises, des petits commerçants notamment. Ils ne voient pas d'un bon œil l'installation de cette usine EO2 à Salins-les-Bains. Michel Sêtre, qui n'a pas voulu se représenter à la tête de la commune, minimise les désagréments pointés du doigt.
Il y a un trafic routier de ce transport de bois qui provoque des désagréments, mais usine pas usine, ces bois passent ici. Les nuisances que ça pourrait créer, aujourd'hui, je les ai déjà dans la ville. Je les ai.
Comment est-ce que vous expliquez que M. Poisat n'a pas réussi à s'installer du côté de Champagnol, n'a pas non plus réussi à s'installer du côté de Poligny, dans ces deux endroits-là, où il avait, dans un premier temps, imaginé installer son entreprise? On lui a dit non. C'est bien la même, grosso modo, intercommunalité.
On lui a dit non parce qu'on a beaucoup de demandes. Enfin, ces gens-là ont beaucoup de demandes d'entreprises. Enfin, Poligny, les zones sont pleines. Et nous, je suis désolé, mais on essaie de se faire connaître auprès globalement de l'industrie, enfin de l'économie, des artisans. Aujourd'hui, moi, j'ai personne qui s'installe. Quoi. Voilà. Depuis 40, 50 ans, on perd des emplois et on a même du mal à faire s'installer des PME. Enfin voilà. Donc il n'y a pas de dynamique sur le développement économique. On a été approché par M. Poisat, effectivement, le PDG de la société EO2. Et moi, j'ai proposé le site des Ménacoles à Salins, donc, qui est notre zone d'activité, qui n'a pas vu s'implanter d'entreprise, même artisanale, depuis 40 ans. Donc quand on a 40 emplois directs, on peut considérer que ça crée au moins 1 à 2 emplois indirects. Donc c'est la création de entre 80 et 100 emplois à travers le fonctionnement de cette usine de Pelé.
Dans le département de la Creuse, la société Biosil veut elle aussi construire une nouvelle usine pour fabriquer des granulés de bois. On parle ici d'une production annuelle d'environ 80 000 tonnes. Son patron, Antoine de Cockborn, a récemment obtenu le permis de construire. Il a donc acheté 17 hectares de terre dans une zone industrielle au nord de Guéret. Les travaux préparatoires ont débuté le mois dernier, malgré une forte opposition sur le terrain.
Bonjour, donc moi je m'appelle Cédric Trollon, je suis guérétois, je suis né à Guéret, j'ai grandi en Creuse. Voilà, je suis très attaché à mon territoire que j'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui je me suis inscrit dans cette lutte parce que ça fait en gros 34 ans que j'assiste à la destruction de mon patrimoine et j'en ai un petit peu marre, quoi, voilà.
Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Alors aujourd'hui je suis réparateur de vélos, voilà, dans une ressourcerie. Mais avant j'ai été agriculteur, éleveur et avant j'ai travaillé dans un service environnement, dans une ville, voilà. Et j'ai une formation de naturaliste à la base. Alors là, on est exactement à l'entrée, la future entrée du site industriel de Biosil, donc qui se trouve juste entre une entreprise de recyclage de batteries électriques et le centre départemental Enedis, voilà, dont tous les secours et les bureaux, etc., sont là. Si on regarde un tout petit peu au nord, là-bas, on a tout un parc photovoltaïque de 17 hectares qui va être vraiment mitoyen de l'usine Biosil et notamment du dépôt de bois. Donc on va imaginer avec toutes les poussières qui vont voler sur les panneaux solaires. Quoi.
Ce terrain de Biosil, il couvre combien d'hectares là et à quoi il ressemble là ?
Ah là là, alors en fait, bon, en gros, on a une grosse masse là devant nous qui représente à peu près 17 hectares.
Il y avait des arbres avant là ?
Ah oui, jusqu'à début février, il y avait encore des arbres. arbres. Je connais très très bien cette zone parce que c'est une zone humide en fait. Et en tant que naturaliste, voilà, je m'y suis intéressé. Je sais que voilà, c'est un hotspot de sonneurs à ventre jaune, qui est un petit crapaud hyper protégé. Il y a des chauves-souris, il y a au niveau des batraciens, il y a plein de choses. Si on va un petit peu de l'autre côté, il y a des mares super intéressantes. Et là, en fait, si on regarde bien, on a des espèces d'énormes taupinières sur la parcelle devant nous. Donc c'est des gros tas de terre qu'ils ont retirés en faisant des espèces d'énormes tranchées pour assécher la zone humide. Et ils ont tout dévasté, en fait. Ça s'est fait début février, quoi, en plein hiver. Vous souvenez, au moment où il a plu tant et tant, qu'il y avait des inondations partout en France, et bien ici, on avait des pelleteuses avec des chenilles qui faisaient des trous et qui barbotaient dans la boue.
Il y a des grilles contre lesquelles vous avez posé votre vélo, et sur ces grilles, il y a des pancartes qui témoignent de quoi. C'était la dernière fois que vous êtes venu manifester ici.
C'était une manifestation. C'était entre une manifestation et une balade naturaliste. Et l'idée, c'était voilà, d'intéresser les gens au patrimoine naturel qui nous entoure, juste à côté, aux portes de Guéret, quoi, en fait.
Qu'est-ce qu'il y a sur ces pancartes, là ?
Une autre sylviculture est possible, par exemple. Ça, c'est un message qu'on porte vraiment. On n'est pas du tout des anti-tout et des gens qui veulent mettre la Creuse sous cloche. Au contraire, on défend un autre modèle. Voilà. On a la Creuse, on l'aime sans complexe industriel. Biocile n'a rien de bio. La finance va nous tuer. 25 millions d'euros pour ça.
Est-ce que c'est un combat perdu d'avance pour vous, aujourd'hui ?
Ah non, pas du tout. Il y a un collectif, le réseau Forêt Limousine qui s'est constitué en Creuse, qui a réussi à fédérer environ 35 associations et collectifs et syndicats.
Membre du réseau Forêt Limousine, Laurent Marguerita représente la CGT dans le département de la Creuse. Anne milite de son côté au sein du collectif Forêt Debout. Tous les deux se mobilisent depuis des mois contre ce nouveau site industriel porté par Antoine de Cockburn qui dispose déjà de deux usines en France, dont un site à Cône-sur-Loire, dans la Nièvre.
Ce projet d'usine, c'est un non-sens en fait. C'est aller récupérer des produits des forêts, qu'il appelle des résidus de forêt, des déchets de forêt, avec un diamètre, il dit, entre 8 et 40 cm.
Ce qu'on appelle, dans le jargon aussi, les bois de trituration.
Voilà, ce fameux bois qui était trituration industrielle. Il va être acheminé jusqu'ici, et ensuite il va passer par 11 étapes de transformation pour aboutir à ce petit granulé de bois. Cette usine, elle, rien que sa chaudière biomasse, elle consomme deux fois le réseau de chaleur de la ville de Guéret. Et l'électricité qu'il y aura besoin sur ce site correspond exactement à ce qui est produit par les 33 000 panneaux solaires qui sont de l'autre côté.
C'est pour ça qu'il s'est installé juste à côté.
Alors peut-être que du coup, c'est de l'énergie en circuit court.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est totalement énergivore.
C'est totalement énergivore, transformé du feuillu, c'est pas transformé du résineux.
Ça prend plus de temps.
Ça prend plus d'énergie. Les salariés de Cône qu'on a rencontrés nous ont bien expliqué que tous les couteaux, les broyeurs, c'est énormément d'énergie pour réussir à déchiqueter du bois feuillu, qui est beaucoup plus costaud que le bois résineux.
À Cône-sur-Loire, vous avez rencontré donc une partie des gens qui travaillent dans cette usine. Cette usine-là, de ce que vous en savez, elle est elle-même alimentée d'ores et déjà par des coupes rases depuis plusieurs années.
On a deux preuves. Il y a eu une preuve qui était passée donc dans un documentaire sur le front sur France 5, où ils avaient suivi une coupe pour voir où est-ce qu'elle arrivait. Et il se trouve que c'est là qu'ils ont découvert Biocile pour la première fois. Et l'association Canopée vient de re-suivre une coupe du Cher. Et il se trouve que cette coupe a alimenté l'usine de Cône. La vérité, c'est que s'il veut sortir des sacs de pelée à 5-6 euros avec toute la consommation d'énergie qu'il va y avoir sur le site, on ne voit pas comment il peut s'approvisionner en bois géré durablement. C'est juste pas possible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ici, en Creuse, en Limousin, on a très peu de forêts gérées durablement.
Par rapport à la filière, je leur dirais chiche. Si Monsieur de Cockburn, si les grandes coopératives arrivent à fabriquer du pelé de feuillus à partir des coupes d'éclaircies, à partir des résidus de valorisation des parcelles, eh ben on dira chiche. Le problème, c'est qu'on voit qu'ils ne sont pas du tout dans cette démarche. C'est-à-dire que...
Mais ça demande beaucoup plus de travail pour faire ça, fait.
C'est là que c'est important qu'eux payent les salariés. Il faut qu'ils arrêtent aussi de promouvoir ce travail en cascade, où vous avez des entreprises de travaux forestiers, où les salariés... C'est pas les salariés, c'est des petits patrons, enfin, qui sont... C'est des sous-traitants avec un lien de subordination direct avec ces grosses coopératives forestières, où ils ont un pouvoir de vie et de mort sur l'entreprise, où ils sont pratiquement à 80 ou 90% les donneurs d'ordre, et il faut qu'on travaille dessus.
On sait par des échanges qu'on a qu'il y a beaucoup de gens de la filière qui ne sont pas très contents de ce projet-là. Parce qu'il va encore...
Mais ils ne veulent pas parler.
Mais non, jamais. En fait, ils nous disent, ben oui, mais non, ce ne sera pas public. Et on sait qu'on a des ETF, donc des entreprises de travaux forestiers, qui sont déjà sous pression, qui nous disent en effet qu'ils ont fait des emprunts pour leur abatteuse. Et qu'aujourd'hui... ils sont obligés en effet d'aller bosser, comme disait Laurent, sur les coupes qui sont commanditées par les coopératives.
Ils sont pieds et poings liés en fait, d'une certaine manière.
Ouais, puis ils sont payés au volume de bois sorti. Ils sont pas payés à l'heure, donc on fait pas de belle gestion forestière dans les conditions comme ça. On a des entreprises locales qui nous disent qu'elles voient pas d'un bon œil l'arrivée de Biosil, puisque ça va être une pression supplémentaire sur la ressource. Après, voilà. On n'a pas la possibilité de débattre de ce projet de territoire. On nous l'a confisqué, clairement.
Président d'hiver gauche de l'agglomération du Grand Guéret, Éric Correa conteste cette version des faits.
Il n'y a pas de vente en catimini. Une heure de débat en juin 2024. La vente des terrains s'est faite en juin 2024. Les propos ont duré à peu près une heure. Tout le monde a pu intervenir. Les gens qui défendaient le projet, les gens qui étaient contre. Et d'ailleurs, c'est enregistré, donc c'est consultable. Sur l'heure, il y a à peu près deux tiers de gens qui étaient contre qui ont parlé et un tiers qui était pour qui ont parlé. Il y a eu un vote. Personnellement, oui, mais avec 65% des autres élus, j'ai voté pour la vente de terrain. Après, s'en suit un compromis de vente et il passe à la vente quand le permis est accordé. Le permis a été accordé par Madame le maire de Guéret, qui est contre le projet et qui a signé le permis. Moi, personnellement, j'aurais été maire de Guéret contre le projet, je ne l'aurais pas signé. Et quand l'acheteur... c'est-à-dire M. de Coqueborne de Biosil a eu le permis signé, il a attendu un moment et après il a fait savoir qu'il voulait acheter définitivement les terrains. Et les terrains lui ont été vendus. Point. Pour nous, le sujet, ce n'est pas pour ou contre Biosil. Moi, je suis pour la création d'emplois sur nos territoires. 115 000 habitants en Creuse, 13 000 à Guéret. L'INSEE nous prévoit 70 000 habitants en 2040. Moi, je n'ai pas été élu pour qu'on devienne une réserve. D'accord ? Les emplois publics disparaissent tous les ans. On ne peut pas à la fois manifester contre la suppression d'écoles, de classes, de postes d'instituts et dire non à l'installation d'entreprises. Ce n'est pas possible. Voilà. On a besoin d'emplois privés pour maintenir nos emplois publics et on a besoin de tout ça parce que sinon, dans 3-4 ans, on n'aura plus de maternité, on n'aura plus de pédiatrie parce que ça, c'est une réalité locale. Voilà. Et donc, on ne peut pas voir le prisme de la Creuse à travers uniquement ces espaces verts. C'est aussi, moi, je souhaite continuer à vivre en Creuse. Et je souhaite que des jeunes puissent continuer à vivre en Creuse. Mais pour qu'ils puissent continuer à vivre, il faut qu'il y ait un minimum de services publics qui soient là. Parce que sinon, on perd tout. Et ça, c'est une réalité locale. Qui peut plaire ou ne pas plaire, c'est juste de la réalité, ce sont des faits.
Mais aussi, elle va permettre de maintenir les services publics en Creuse.
Mais l'emploi privé, la création d'emplois privés. Il n'y a pas que Biosil. Nous en avons installé un laboratoire pharmaceutique qui a créé 40 emplois, qui va doubler, qui va créer 80 emplois. Eux aussi. Voilà, il faut tout type d'emplois sur un territoire. Mais ça, c'est partout ailleurs. Nous ne sommes pas les seuls en France, malheureusement, à faire partie de ce qu'on appelle des territoires un peu abandonnés.
Proche de la France insoumise, Emmanuel Reynal est un ancien journaliste. Il a travaillé pour l'Humanité. Il fait aujourd'hui partie du réseau Forêt Limousine. Avec d'autres, il a cherché à savoir à quoi ressemblait la structure juridique et financière de Biosil.
Si on gratte un peu sous le vernis, on découvre une face cachée de Biosil qui nous permet de conclure que Biosil, en fait, n'est pas une simple PME industrielle, familiale, classique, mais plutôt une start-up à vocation financière. Le profil de son fondateur, d'ailleurs, d'abord, Antoine de Coqueborne, donc, qui a travaillé pour la City à Londres, donc dans des grandes banques américaines, Merrill Lynch et puis Citigroup. Ensuite, on a découvert des choses assez surprenantes et qui sont méconnues, mais pourtant très instructives. Par exemple, la structure juridique en cascade de l'entreprise. Biosil est chapeauté par une holding qui est détenue à 100% par Antoine de Coqueborne. Sous cette holding, on trouve une autre holding, Linia ENR, qui vient, elle, contrôler les autres entités juridiques du groupe, autant d'entités juridiques pour autant d'usines de production. Donc c'est déjà une structure très étrange pour une PME qui prétend intervenir classiquement dans une filière bois qui se veut écologique et local.
Pour autant, ça n'a rien d'illégal.
Effectivement, rien n'interdit à Biosil d'être structuré de cette façon. Mais je crois que ça doit nous alerter sur les véritables objectifs de l'entreprise. Et c'est là que le temps long de la forêt se heurte au temps court de la finance.
Pourquoi ?
Parce que Biosil a fondé son développement sur le recours à des fonds de gestion parisiens qui ont pour objectif un temps court de rentabilité, en général 5 à 7 ans. Et ce temps court n'est absolument pas le temps long de la forêt. Donc pour que le système Biosil fonctionne, il est nécessaire que les usines fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour générer un flux constant et massif de flux de trésorerie qui va servir in fine à rembourser les fonds de pension parisiens. Et ça, c'est totalement incompatible avec ce temps long de la forêt qui a besoin de plus de temps pour se régénérer naturellement.
Ici, on a un broyeur qui va broyer les rondins écorcés et ça va les transformer en plaquettes.
Dans le département de la Nièvre, à Cosne-sur-Loire, l'usine historique de Biosil, créée il y a 10 ans, ne s'arrête jamais.
Ça ressemble à ça, en fait, quand ça sort du broyeur. Voilà. Là-bas, ça, c'est des déchets de tonneliers, là, ce qu'on voit à droite.
Antoine de Cockborn, le PDG du groupe, se charge de la visite guidée en précisant, en guise de préambule, que son entreprise a été créée par des forestiers pour des forestiers.
Il faut savoir que chaque usine permet à 70 000 foyers de se chauffer avec une énergie locale et décarbonée, puisque comme vous le savez, le pellé ou le granulé de bois émet 5 fois moins de CO2 que le fioul. Mais surtout, c'est une énergie pas chère, économique, hein, puisque 2 fois moins chère que l'électricité. Donc c'est une énergie qui présente beaucoup d'atouts, à la fois moderne, confortable, économique, et dans le bouquet des énergies renouvelables. C'est une énergie made in France, et aujourd'hui, dans un contexte de souveraineté énergétique, hein, il faut savoir que aujourd'hui, il y a entre 400 et 500 000 tonnes de granulés qui viennent de l'autre bout du monde, du Brésil, d'Amérique. Et donc, chaque usine que l'on fait, c'est autant de granulés que l'on va éviter d'importer en France.
Alors là, on arrive sur la partie écorçage. Donc là, on a un tambour avec des rotors qui vont permettre de gratter les bois. Il faut savoir que pour avoir un granulé de qualité, il faut enlever l'écorce. Et ensuite, on verra que cette écorce sert de combustible pour notre partie de séchage.
Antoine de Cockborn, pourquoi vouloir créer une troisième usine à Guéret, notamment, dans le département de la Creuse ?
Parce que le marché est en croissance. Aujourd'hui, si l'ONF nous soutient, si tous les forestiers nous soutiennent, c'est parce qu'on fait du bien à la forêt et qu'on est une solution, notamment pour adapter la forêt dans un contexte de changement climatique. On offre des débouchés locaux à des bois qui doivent avoir des débouchés pour pouvoir entretenir la forêt. Et donc, on répond, si vous voulez, à cette mission également. Et il y a également l'impact économique, évidemment. On va quand même créer 40 emplois, faire vivre 40 familles. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je me bats pour réindustrialiser la France. Aujourd'hui, c'est très compliqué de réindustrialiser la France. Moi, je suis fier, si vous voulez, de monter des usines en France aujourd'hui. Je sais que c'est difficile. Et à Guéret, il y a une incompréhension énorme. Il y a des personnes qui diffusent des fausses informations. Et du coup, c'est normal qu'il y ait des oppositions. Et à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué.
Parmi la ribambelle de grief, il y a notamment le fait que votre présence va nécessairement, mathématiquement, accélérer sur place, dans ce département, les coupes rases, qui sont déjà importantes, puisque c'est notamment par ce biais-là que se nourrissent les usines qui font du papier.
Aujourd'hui, il y a des coupes rases en Creuse. Biosil n'est pas là. Demain, Biosil sera là. Il n'y aura pas plus de coupes rases parce que Biosil est là.
Mais comment vous en avez la certitude ? Comment vous pouvez l'assurer, ça ?
Mais tout simplement parce qu'un propriétaire forestier, à aucun moment, ne va décider de couper sa forêt pour faire du granulé. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un faux procès. Aujourd'hui, la coupe rase, c'est un élément de buzz qui est fait pour faire peur dans les chaumières. Nous, on est des industriels, on est là pour des dizaines d'années. On n'a aucun intérêt à porter atteinte à la forêt. Moi, je suis d'une famille de forestiers, j'adore la forêt. C'est un procès qui est complètement faux et absurde.
Parmi les opposants, certains pointent également la manière dont vous assurez les montages financiers, le fait que vous êtes soutenu par des fonds d'investissement parisiens, que vous êtes vous-même un banquier d'affaires, en tout cas vous êtes passé par ce monde-là, vous avez travaillé à la City britannique. Et ils disent que finalement, le montage de votre société ne correspond pas au pas de temps de la forêt.
Écoutez, moi quand je suis sorti d'école, j'ai effectivement travaillé 5 ans dans la finance. J'ai quitté la finance justement parce que je voulais devenir entrepreneur, créer une activité. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis un acteur industriel. Je suis parti de quasiment rien. J'ai effectivement eu recours à des fonds. Et heureusement qu'en France, il y a des acteurs qui prennent des risques et qui investissent justement pour créer des usines. Aujourd'hui, on fait vivre quand même 80 familles. Moi, j'ai créé 80 emplois, donc je ne comprends même pas ce procès. Aujourd'hui, je n'ai pas de fonds d'investissement dans la structure. C'est une PME maintenant familiale qui va être transmise ensuite à mes enfants. Enfin, je veux dire, là, encore une fois, on est dans la caricature la plus totale et dans des gens qui véhiculent des mensonges.
Vous contestez le fait que votre entreprise est formée de holding, par exemple.
Mais ça veut dire quoi, une holding ? Il y a une SAS, une SARL, il n'y a que des sociétés qui sont en France, qui payent des impôts en France. Je ne comprends pas du tout cette accusation. Vraiment, je ne la comprends absolument pas.
À une bonne heure et demie de route de Cosne-sur-Loire, la forêt du Morvan n'est pas épargnée par les coupes rases. Ses défenseurs n'ont pas de chiffres précis, mais ils affirment que de très nombreuses parcelles ont été rayées de la carte pour alimenter les industries qui exploitent la ressource forestière. Marie-Anne Guillemin est l'administratrice d'Adrets Morvan. Cette association milite contre l'abattage massif des arbres, une pratique néfaste pour la biodiversité.
On nous parle beaucoup de réchauffement climatique. C'est vrai, c'est un phénomène qui est absolument terrible et contre lequel il faut lutter. Mais lutter en se disant, voilà, on va utiliser de l'énergie bois, c'est-à-dire continuer à mettre encore plus de carbone dans l'atmosphère, tout en détruisant les forêts et en ne respectant pas la logique, le bon sens le plus élémentaire en matière d'usage du bois, c'est un vrai problème pour nous. Par exemple, il y a une bonne partie de ce qui est utilisé aujourd'hui pour faire des pellets, des granulés, des plaquettes, quel que soit le nom qu'on donne à ce mode de chauffage, qui pourrait être utilisé pour faire des isolants. Et là, pour l'instant, nous, on se parle dans un département qui s'appelle la Nièvre, où il y a une grande partie des habitations qui ne sont pas isolées. Là, pendant qu'on promeut et qu'on subventionne de nouvelles installations d'usines à fabriquer des pellets, les subventions gouvernementales pour pouvoir isoler les maisons disparaissent et font comme peau de chagrin. Le fonds vert disparaît. Les collectivités, en fait, ne peuvent pas assurer matériellement la transition écologique parce qu'elles n'en ont tout simplement plus les moyens. Le granulé, c'est une énergie vertueuse à condition de l'utiliser très localement, à condition également, de pourvoir les massifs forestiers en emplois locaux. Puisque c'est un système, en fait. C'est-à-dire que s'il y avait des usines ou des petites unités de fabrication de granulés à côté des scieries, dans les massifs, ça ferait déjà qu'on économiserait du carburant sur la livraison. Ensuite, les gens localement, ils ne seraient pas obligés d'aller travailler à une heure ou une heure et demie de route. Donc ce serait un cercle qui serait beaucoup plus vertueux, en fait. Sans compter que le renouvellement des forêts serait bien mieux assuré. Parce que quand on a des usines qui ont la taille de celle de Biosil, par exemple, il y a un besoin d'approvisionnement, il y a des économies d'échelle qui sont faites par ces usines, mais du coup, le tri du bois ne peut pas être fait de manière efficace.
Pour vous, une bonne gestion des massifs forestiers aujourd'hui, c'est une gestion qui ne peut pas ne pas se faire avec des partenaires comme vous ? Vous ne pouvez pas être mis de côté, les associations, les militants, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas dans la gestion forestière.
On n'est pas vraiment dans la gestion forestière. Alors, la meilleure gestion forestière, c'est une gestion qui consiste à ne pas prendre à la planète plus que ce qu'elle ne peut reconstituer, c'est-à-dire à ne pas surexploiter les forêts. Donc effectivement, à considérer les intérêts économiques, les intérêts immédiats, les intérêts financiers, à les considérer comme subordonnés au bien commun. Or, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Il suffit de voir les derniers textes qui ont été adoptés. Par exemple, les associations, mais les citoyens de manière générale. Quand on voit que le plan pluriannuel pour l'énergie là, vient d'être adopté par décret sans aucune consultation du Parlement, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que les citoyens et la représentation des citoyens, le Parlement n'est même pas associé à un plan pluriannuel sur l'énergie, donc qui va conditionner en fait l'avenir énergétique et donc l'avenir écologique du pays, puisque le problème qu'on a de réchauffement climatique vient quand même essentiellement de notre surconsommation énergétique.
Merci à la violoncelliste Olivia Gay qui a accepté d'être enregistrée en forêt de Fontainebleau, seule avec son instrument. On lui doit également les morceaux que l'on entend dans ce grand reportage, des duos de violoncelle et de piano tirés de son album Whisper Me a Tree. Olivia Gay est engagée artistiquement dans la préservation des forêts. Elle est ambassadrice pour l'ONF, l'Office National des Forêts. Elle sera en résidence en avril prochain à Aubusson, dans la Creuse. Granulés de bois, une énergie verte controversée, c'était un reportage d'Olivier Denray avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Arnaud Sergent, chercheur en sciences politiques à l'INRAE Bordeaux, est avec nous pour commenter et prolonger ce reportage dans lequel nous avons entendu des points de vue variés. Nous n'allons pas revenir sur tous les points de discorde, mais je vous invite à apporter votre pierre au débat. La personne que l'on vient d'entendre de l'association Adrey Morvan disait différentes choses, mais elle disait notamment « l'énergie bois, c'est mettre du carbone dans l'atmosphère ». Alors la France a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce serait bien de limiter notre consommation d'énergie, mais bon, on en a quand même besoin. Est-ce que la filière des granulés de bois est un atout pour décarboner l'énergie ou pas ?
Alors ça fait partie un petit peu des premiers paradoxes que ce reportage très intéressant met en évidence. C'est qu'effectivement, d'un côté, on entend effectivement un certain nombre d'acteurs qui se retrouvent en porte-à-faux par rapport à des choix industriels, mais c'est aussi avant tout, et il faut le dire, c'est un choix de l'État français, du gouvernement, de la France, qui a choisi que dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone, et comme on l'a dit la dernière personne tout à l'heure, dans le cadre plus récemment de la programmation pluriannuelle de l'énergie, compte énormément sur la ressource bois pour contribuer aux objectifs d'énergie renouvelable. Il faut se rappeler que plus de 30% des énergies renouvelables en France sont issues du bois. Pour la chaleur, c'est même 70% qui vient du bois. Donc on compte beaucoup. Et on compte pour décarboner le bâtiment. Et on compte, pour les pellettes, c'est principalement ça. Et on compte pour décarboner aussi nos systèmes industriels.
Parce que les émissions sont vraiment moindres que pour le gaz et pour le fioul, par exemple.
Alors, non, les émissions sont plus importantes.
Alors oui, expliquez, parce que c'est complexe. Ça mérite.
Donc c'est le paradoxe. En fait, le bois bénéficie d'un avantage comptable, on dirait. C'est-à-dire que dans la comptabilité, alors c'était le cas à Kyoto, ça a été le cas dans les accords de Paris, et c'est le cas aussi pour la comptabilité que l'on rend à l'Union européenne dans le cadre de nos engagements, le bois est compté zéro, en résumé. C'est-à-dire qu'on considère que tout bois coupé, en tous les cas celui qui est valorisé, enfin qui est mobilisé en Europe, est compté zéro à partir du moment où on considère qu'il repousse.
Et puis, pendant qu'il croissait, il stockait du carbone. Il y a aussi cette idée-là,
et voilà,
tout au long de sa vie.
Surtout qu'il a continué à croître, après qu'il ait été coupé. Puisque en France et en Europe en général, la plupart des zones qui sont coupées sont reboisées. Et c'est une obligation en France. Par contre, ça, c'est juste une décision comptable. Dans la réalité, en fait, c'est une question temporelle. Et d'ailleurs, récemment, en 2022, quand il y a eu le débat sur la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, à un moment donné, le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'une restriction de la qualification de la durabilité de la ressource en bois. Ça aurait exclu plus de 20 à 30%.
Ça veut dire qu'on aurait failli voir disparaître l'idée de énergie renouvelable. Le mot renouvelable aurait pu disparaître du vocabulaire, en fait.
Oui, et surtout des subventions. C'est-à-dire que ça excluait notamment tous ces projets-là de subventions. Alors, je pense que les pellettes auraient peut-être échappé à cela, puisque ce qui était contrôlé, c'était les utilisateurs finaux. Or, on ne contrôle pas les utilisateurs finaux aujourd'hui sur leur approvisionnement.
Puis, il y a des avantages qui sont pointés sur les pellets, par exemple, par rapport à l'énergie éolienne et au solaire, c'est que les granulés de bois ils peuvent être stockés. Donc utiliser n'importe quand on en a besoin. Et puis il y a aussi de nouveaux modèles de poêles à granulés de bois qui sont dont le rendement est meilleur, qui émettent aussi moins de particules fines aujourd'hui. Et donc on dit qu'avec la technologie, on arrive à être plus performant.
Oui, et c'est le cas. C'est-à-dire qu'en France, l'objectif il n'est pas tellement de couper plus de bois pour l'énergie. On utilise moins de bois aujourd'hui pour le bois énergie qu'on utilisait dans les années 90, mais c'est d'augmenter les rendements. C'est de passer en gros de ma bûche que je mets dans ma cheminée à l'utilisation, parce qu'effectivement, il y a un gain très important en termes de rendement énergétique. Il faut savoir aujourd'hui qu'un foyer sur quatre est équipé de chauffage au bois, pas forcément comme chauffage principal, et que les pellets représentent 11% de cet usage du bois.
Donc il y a une marge de progression importante.
Il y a une marge de progression très importante, même si bon, les poêles à pellets se sont un peu calmés. Hein. Dernièrement, il y a eu une augmentation assez forte du prix suite notamment au Covid. Il y a eu une augmentation très forte du prix des bois, du prix des granulés pardon. Et donc effectivement, ça a un peu calmé, mais effectivement, on a une croissance exponentielle. Et surtout, et ce qu'on entend aujourd'hui aussi, c'est que c'est un produit qui s'inscrit dans un commerce international.
Oui, alors justement, en France, on produit 85% des granulés de bois qu'on consomme. Reste 15% qui sont importés.
Oui.
Donc là, en termes de neutralité carbone, c'est plus tout à fait ça.
Alors, je dirais que c'est pas l'enjeu essentiel. Ça doit venir de pas très très loin. Et finalement, que mes pellets viennent du sud-ouest de la France pour alimenter Nancy, ou qu'ils viennent d'Estonie ou d'Allemagne pour alimenter Nancy, c'est pas tellement...
Du Brésil ou du Canada ?
Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais en France, on a des modèles qui restent assez soutenables de ce point de vue-là. On reste dans un marché européen. Il faut savoir que c'est pas le cas. On a des modèles, et là, on a vu une description. On va peut-être en parler un petit peu plus du modèle qui se crée en France. Mais il faut savoir que à base, l'économie des pellets, c'était parti sur il y avait un modèle encore plus important qui était celui anglais, où des gros investisseurs anglais avaient construit des centrales de cogénération, c'est-à-dire la production d'électricité à partir de pellets, et ils investissaient, ils produisent des pellets aux États-Unis. Donc c'était essentiellement approvisionné par ce type-là. Donc là, on est dans un modèle qui, pour le coup, est très très peu vertueux d'un point de vue carbone et discutable d'un point de vue aussi du modèle économique que ça implique.
Et par rapport à la question de la souveraineté énergétique également.
Alors se joue effectivement cette question de la souveraineté énergétique, et on voit que c'est un petit peu l'argument qui est avancé pour notamment allouer énormément de ressources et de moyens à cette filière pellets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on regarde les enjeux, les moyens publics accordés à la filière forêt-bois pour son développement industriel, 80% des moyens vont à l'énergie. Et une partie va aux pellets, c'est pas uniquement, mais et va à la construction de chaudières et à la construction d'usines de fabrication de pellets. Et 20% uniquement vont pour, je dirais, le matériau, pour produire du matériau bois. Et cette disconnexion-là montre qu'on a un signal très fort, effectivement au nom de la souveraineté, effectivement au nom du respect et de l'alignement avec nos objectifs de la stratégie nationale bas carbone, qui reste le driver unique et principal de pilotage de la politique forêt-bois en France.
Mais alors, la demande étant de plus en plus forte, est-ce qu'on va continuer d'augmenter la capacité et quelle quantité de granulés de bois est-ce que la France va être capable de produire ?
Alors, de manière assez paradoxale. Alors, la France espère continuer à couper plus de bois, mais à couper un peu moins de bois énergie. L'idée, c'est de coupler la production de bois énergie à un développement de l'industrie plutôt du bois matériau pour la construction. C'est ça le récit qui est fait. Qui est fait dans la stratégie bas carbone.
Plus de scierie.
Plus de scierie, qui dit plus de produits connexes, et ces produits connexes valorisés derrière pour des granulés, dans une logique d'économie circulaire. Voilà le modèle économique, et qui est celui d'ailleurs que demandent les personnes qui s'opposent à ces projets-là, dans les territoires. C'est ce que vous avez relevé. Ils disent, nous, on n'est pas contre l'industrie, on est contre un certain modèle industriel, un certain modèle de développement industriel. Et c'est pour ça, effectivement, quand on écoute le récit qu'il y a dans la stratégie nationale bas carbone, par exemple, et qui est porté par l'État et par les investissements que fait l'État, c'est de dire, oui, on va vous promouvoir une industrialisation de la filière bois, mais qui va dans le sens, effectivement, d'une économie circulaire, d'unités qui vont valoriser, faire de la valeur ajoutée, créer des emplois dans les territoires, et qui vont avoir une logique vertueuse de valorisation de la matière et d'apport de la valeur ajoutée dans les territoires.
Sauf que ce modèle-là ne vient en contradiction avec le modèle industriel qui est en train de se développer en France.
Oui.
Quand on entend Antoine de Coqueborn dire dans le reportage que ses entreprises font du bien à la forêt, c'est un discours qui est entendable aujourd'hui, qui est raisonnable, qui est acceptable.
Alors, d'un point de vue Je dirais que d'un point de vue de la cohérence industrielle, ça pose question. Et ça pose question parce que c'est effectivement en contradiction avec la trajectoire ou la promesse qui est faite de l'industrialisation de la filière bois, qui est d'aller vers du bois construction. Mais quand on regarde effectivement les aides à l'investissement, les derniers projets qui ont été subventionnés, hein, il y a plus de 500 000 tonnes qui doivent venir sur les marchés d'ici quelques années suite à un dernier financement là de l'État. On finance essentiellement des industries pellettes qui fonctionnent à partir de feuillus d'abord et de feuillus issus de produits forestiers. Pas de couplage avec des scieries. Et donc ça interroge sur ce cercle vertueux. Alors après, l'autre volet de la question, c'est est-ce que effectivement c'est bénéfique pour la forêt ? Alors là, on est dans une situation paradoxale. Parce qu'effectivement, d'un côté, on attend une sylviculture, on l'entend, plus vertueuse, de meilleure qualité. Et d'un autre côté, on a l'impression, effectivement, qu'on a plutôt une sylviculture qui dégrade, qui ne valorise pas toute la qualité. Mais il faut savoir que cette sylviculture de qualité nécessite des moyens, des investissements dans la gestion forestière. Et je dirais que les usines de pellettes sont aussi, finalement, la lumière d'un abandon, en tout cas d'une très peu d'intérêt pour l'investissement forestier dans la gestion forestière dans les territoires. Tout autant, et ça c'est l'autre signe que révèlent ces développements d'industrie de pellettes, c'est le dépérissement des forêts. Et si elles s'installent dans le Jura et en Creuse, c'est pas complètement anodin.
Alors, il a été justement question dans ce reportage des coupes rases. Oui. Alors, les patrons d'usines disent qu'ils n'y sont pour rien. Du coup, qui est responsable de ces coupes rases aujourd'hui? Et qu'est-ce qui les explique? Est-ce que c'est lié aussi au dépérissement des forêts, justement?
Pas pour le moment, un petit peu, oui, dans certains territoires, clairement. Il faut savoir que les coupes rases sont l'objet, effectivement, un peu qui cristallise tout le débat autour de la forêt ces dernières années. Pour de bonnes raisons, aussi un petit peu pour de mauvaises quelquefois, parce qu'elles cachent d'autres enjeux plus fondamentaux dont on vient parler notamment, ce sont les enjeux industriels, etc. Il faut savoir que les coupes rases en France augmentent pas tant que ça sur le temps long. On a peu de chiffres, mais dernièrement, il y a notamment une association environnementale qui a essayé d'un petit peu de suivre ça en complément de l'IGN. On est en gros à 1,5% des coupes. C'est finalement assez peu qui sont des coupes rases. Et ça représente 0,3% de la forêt. Donc elles sont pas très importantes. Par contre, elles sont les marqueurs, effectivement, d'une sylviculture de mauvaise qualité et finalement d'une valorisation de la forêt qui est pas très bonne. Et surtout, elles montrent aussi de grosses hétérogénéités dans les territoires. C'est parce qu'on se rend compte que, effectivement, c'est peut-être pas tant l'étendue des coupes rases qui est importante que leur concentration dans certains territoires et où ça donne le sentiment, effectivement, que ces territoires sont un peu abandonnés, peu valorisés.
Et le bois qui est coupé, on sait exactement ce qui devient. Il y a une traçabilité?
Alors, la question de la traçabilité des bois est complexe. C'est-à-dire que on demande aux exploitants forestiers a posteriori pour faire des statistiques. On regarde ce que consomment les entreprises. Mais finalement, ce qui est promis comme étant la hiérarchie des usages, puisque c'est aussi l'autre promesse que pour garantir, et ce qui s'est inscrit aujourd'hui dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire de valoriser le bois dans un bon ordre, c'est-à-dire de d'abord le valoriser pour faire des produits à longue durée de vie en termes de carbone, puis ensuite à la fin de faire de l'énergie. En fait, c'est un vœu pieux, parce que c'est absolument impossible à contrôler. Et la trajectoire nous montre que depuis 2009, depuis le Grenelle de l'environnement, quelle est la trajectoire? On produit plus de bois énergie, mais pas tellement au détriment de la forêt. On n'exploite pas tellement plus de bois en forêt. C'est au détriment, et certains auditeurs l'ont dit, certaines personnes que vous avez interviewées l'ont dit, c'est au détriment des autres usages. Et en fait, ces usines-là, elles vont plutôt créer en fait des tensions et des concurrences entre forestiers, entre usages forestiers, finalement que d'étendre les espaces ou les volumes exploités en forêt.
Merci Arnaud Sergent. Le grand reportage de cette semaine, Granulé de bois, une énergie verte controversée, était signé Olivier Denray. Réalisation Annie Bro, à la technique Anthony Thomasson, au web Caroline Beneteau, documentation Rodolphe Meunier et Véronique Le Faller. Pour retrouver ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.